Chapitre 5. Shopping. La pipe de mon père. Un appel de Monsieur Bodich. La boîte de farine. 1. À la quincaillerie, on acheta des barres d'appui, puis on s'arrêta chez Pet Pantry, où un vétérinaire recevait sans rendez-vous. J'achetais des comprimés à mâcher contre les vers du cœur et du carprophène pour l'arthrite de radar. Normalement, il fallait une ordonnance, mais quand j'expliquais la situation à la dame, elle me donna le médicament, en précisant qu'il fallait payer en liquide. Monsieur Bodich achetait ici tous les produits pour radar, précisa-t-elle, en s'acquittant d'un supplément pour la livraison. Papa régla les barres d'appui avec sa carte de crédit. Je payais les médicaments avec mon argent. Dernière étape, le drugstore, où j'achetais un urinal, un bassin, le désinfectant avec lequel j'étais censé nettoyer les broches et deux sprays triple action pour les vitres. Là encore, c'est moi qui payais, mais pas en liquide. J'avais un plafond de $250 sur ma carte Visa, mais je savais qu'elle ne serait pas refusée. Je n'ai jamais été du genre à faire des folies. Sur le trajet du retour, je m'attendais à ce que papa évoque l'engagement que j'avais pris. Ce n'était pas une mince affaire pour un garçon de 17 ans. Mais il ne dit rien, se contentant d'écouter du bon vieux rock à la radio en chantant parfois. Très vite, je compris qu'en vérité, il n'avait pas encore décidé ce qu'il allait dire. Je marchais jusque chez M. Bodich, où Radar m'accueillit. Je déposai les médicaments sur le comptoir de la cuisine et allai jeter un coup d'œil dans la salle de bain. Finalement, songeai-je, l'exiguïté des lieux faciliterait l'installation et l'utilisation des barres d'appui, mais cela devrait attendre le lendemain. J'avais repéré une pile de torchons propres sur l'étagère au-dessus de la machine à laver dans la cave. Je descendis en chercher quelques-uns. C'était une belle journée de printemps, et mon idée première avait été de la passer dehors, à réparer la clôture, mais je décrétais que les vitres passaient avant, afin que l'odeur désagréable du produit ait disparu quand M. Bodich rentrerait chez lui. Et puis, ça m'offrait un prétexte pour faire le tour de la maison. Outre la cuisine, le cellier et le salon, les pièces où M. Bodich vivait véritablement, il y avait une salle à manger dotée d'une longue table recouverte d'une housse. L'absence de chaises la faisait paraître vide. Une autre pièce s'était conçue pour servir de bureau ou de bibliothèque, ou les deux. Je remarquais, avec un authentique désarroi, qu'à cause d'une fuite au plafond, certains livres avaient été mouillés. De beaux livres reliés en cuir, qui avaient sans doute coûté cher. Rien à voir avec ceux empilés n'importe comment dans le couloir du fond. Il y avait les œuvres complètes de Dickens, de Kipling, de Mark Twain et d'un dénommé Thackeray. Quand j'aurai un peu plus de temps, décidai-je, je les descendrai des étagères et je les étalerai sur le sol pour voir s'ils pouvaient être sauvés. Il existait certainement des tutos sur la question. Ce printemps-là, je fis une grosse consommation de YouTube. Au premier étage, il y avait trois chambres, plus un placard à linge et une deuxième salle de bain, plus grande. D'autres étagères de livres occupaient les murs de sa chambre et une lampe de bureau était disposée à côté du lit, là où il dormait de toute évidence. Dans la chambre, il y avait principalement des livres de poche, des romans policiers, de science-fiction, de fantasy et des pulps d'horreur des années 40. Certains paraissaient excellents et je me disais que si tout se passait bien, je demanderais la permission de les emprunter. Je devinais que la lecture de Thackeray serait ardue, mais La mariée était en noir semblait tout à fait dans mes cordes. Sur la couverture, la mariée en question, sexy, portait du noir en effet, mais ses vêtements n'étaient pas très couvrants. Deux livres étaient posés sur la table de chevet. Un livre de poche intitulé « La foire des ténèbres » de Ray Bradbury et un grand format « Les origines de la fantasy et sa place dans la matrice du monde », une approche jungienne. La couverture représentait un entonnoir rempli d'étoiles. Dans une des autres chambres, un lit à deux places était fait, mais couvert d'une bâche en plastique. La troisième, totalement vide, sentait le renfermé. Si j'avais porté de vraies chaussures et non des baskets, mes pas auraient résonné de manière inquiétante dans cette pièce. Un escalier étroit, un escalier à la psychose, pensais-je, menait au deuxième étage. Ce n'était pas un grenier, mais il était utilisé comme tel. Une grande quantité de meubles s'entassait dans ces trois pièces, parmi lesquelles six chaises élégantes qui allaient sans doute avec la table de la salle à manger, et également le lit de la chambre vide, avec la tête de lit posée dessus dans le sens de la longueur. Outre les meubles, il y avait deux vélos, dont un avec une seule roue, et des cartons poussiéreux remplis de vieux magazines. Dans la troisième pièce, la plus petite, une caisse en bois contenait ce qui ressemblait à des outils de menuisier qui dataient au moins de l'époque où le cinéma parlant était encore une nouveauté. Sur le côté de la caisse, à moitié effacée, on distinguait deux initiales, AB. Je pris la chignole en songeant qu'elle pourrait m'être utile pour installer les barres d'appui, mais elle était grippée. Pas étonnant. Le toit avait fui dans le coin, là où les outils étaient entreposés, et tous, la chignole, deux marteaux, une scie, un niveau avec une bulle d'un jaune trouble au milieu, avaient échoué à Rouilleville. Il fallait s'occuper de cette fuite, me dis-je, avant le prochain hiver, ou sinon la charpente risquait de souffrir, si ce n'était pas déjà le cas. Je commençais par nettoyer les vitres du deuxième étage, car c'étaient les plus sales, pour ne pas dire crasseuses. Je compris que j'allais passer mon temps à changer l'eau du seau, et bien entendu, l'intérieur des carreaux ne représentait que la moitié du travail. Je m'arrêtai à l'heure du déjeuner et fis réchauffer une boîte de chili sur la vieille cuisinière Hot Point. « Est-ce que je peux te laisser lécher le bol ?» demandai-je à Radar. Elle me regarda avec ses grands yeux marrons. « Je ne dirai rien si toi non plus. » Je posai le bol par terre et elle se jeta dessus. Je m'attaquai de nouveau aux vitres. Le temps que je termine, l'après-midi était déjà bien entamé. Mes doigts étaient tout fripés et j'avais mal au bras à force de frotter. Mais le Windex mélangé au vinaigre blanc, merci YouTube, c'était vraiment efficace. Désormais, la lumière envahissait la maison. Je suis content du résultat. Tu veux qu'on aille faire un tour chez moi? Pour voir ce que papa fabrique? Radar aboya pour signifier qu'elle était d'accord. 2. Papa m'attendait sur la véranda. Sa pipe était posée sur la rambarde, à côté d'un paquet de tabac. Alors, on allait la voir, cette conversation, finalement. Une conversation sérieuse. À une époque, mon père avait fumé des cigarettes. J'ai oublié quel âge il avait quand maman lui avait offert cette pipe pour son anniversaire. Ce n'était pas une pipe très chic, à la Sherlock Holmes, mais elle avait dû coûter cher malgré tout. Je me souviens que maman insistait pour qu'il arrête les clous de cercueil, et il promettait, vaguement, comme tous les drogués, d'arrêter un jour. La pipe avait emporté le morceau. Il avait commencé par réduire sa consommation de clopes, puis il avait arrêté totalement, peu de temps avant que maman traverse ce foutu pont pour aller nous chercher du poulet. J'aimais l'odeur du Three Sales qu'il achetait au bureau de tabac du centre, mais très souvent, il n'y avait rien à sentir car la pipe s'éteignait sans cesse. Cela faisait peut-être partie du plan de maman. Hélas, je n'ai pas eu l'occasion de lui poser la question. Finalement, la pipe avait échoué sur le porte-pipe, sur la cheminée, jusqu'à la mort de maman du moins. Après quoi, elle avait fait son retour. Durant ces années d'alcoolisme, je n'avais jamais vu mon père avec une cigarette, mais la pipe l'accompagnait tous les soirs quand il regardait ses vieux films, même s'il la bourrait et l'allumait rarement. En revanche, il mâchonnait sérieusement le tuyau et il avait dû le changer. Il emportait sa pipe aux réunions des AA dans les premiers temps. Comme il était interdit de fumer, il mâchonnait le tuyau, avec le fourneau à l'envers parfois. Je le tenais de Lindy Franklin. À l'approche de son deuxième anniversaire d'abstinence, la pipe était retournée sur la cheminée. Lorsque je l'avais interrogé là-dessus, il m'avait répondu « Je suis sobre depuis 2 ans, et tant que j'arrête de me faire les dents. » Néanmoins, la pipe réapparaissait parfois, à l'occasion d'une réunion importante des courtiers au siège de Chicago, s'il devait faire une présentation, lors de l'anniversaire du décès de maman, à chaque fois, et aujourd'hui. Avec le paquet de tabac, signe qu'il s'agissait d'une conversation très sérieuse. Radar monta sur la véranda, telle une vieille dame, en s'arrêtant pour examiner chaque marche. Papa la gratta derrière les oreilles. « T'es qui la plus gentille ?» La chienne émit un « ouaf » et s'allongea à côté du fauteuil à bascule de papa. Je m'assis dans l'autre.
« Tu as commencé à lui donner ses médocs ?»«
Non, pas encore. Je cacherai le vermifuge et les comprimés contre l'arthrite dans son dîner. »
« Tu n'as pas emporté les barres d'appui ?»
C'est pour demain. Je vais lire les instructions ce soir. Ainsi que le fascicule, les soins à domicile pour les nuls. J'aurais besoin de ta perceuse, si tu veux bien. J'ai trouvé une boîte à outils, avec les initiales AB dessus. Elle appartenait peut-être à son père ou à son grand-père, mais tout est rouillé à l'intérieur, à cause d'une fuite dans le toit.
Je te prête la mienne.
Il prit sa pipe. Elle était déjà bourrée. Il sortit des allumettes de sa poche de chemise et en frotta une contre l'ongle de son pouce. Un tour de magie qui me fascinait quand j'étais gamin, et qui me fascinait toujours.
Et tu sais bien que je me ferais un plaisir de venir te donner un coup de main.
Pas la peine. La salle de bain est minuscule. On se gênerait plus qu'autre chose.
Ce n'est pas vraiment ça le problème. Hein, Chip?
Depuis quand ne m'avait-il pas appelé comme ça? 5 ans? Il approcha l'allumette, déjà à moitié consumée, du fourneau de la pipe et se mit à téter le tuyau. En attendant ma réponse, évidemment. Mais je n'avais rien à lui offrir. Radar dressa la tête pour renifler le tabac aromatique, puis reposa sa truffe sur le plancher de la véranda. Elle paraissait heureuse. Papa secoua l'allumette.
« Il y a quelque chose que tu ne veux pas que je voie là-bas »
Je pensais à Andy qui m'avait demandé s'il y avait des animaux empaillés et une pendule KitKat qui vous suivait des yeux. Je souris. « Non, c'est juste une maison plutôt délabrée, avec un toit qui fuit. » D'ailleurs, il va falloir faire quelque chose, tôt ou tard. Papa hocha la tête et tira sur sa pipe.
J'ai parlé avec Lindy de cette situation.
Ça ne me surprenait pas. Lindy était son parrain et papa était censé lui confier tout ce qui le tracassait.
Il dit que tu es peut-être fait pour t'occuper des autres et que ça date de l'époque où je picolais. Je ne sais combien de fois tu as dû t'occuper de moi malgré ton jeune âge. Tu faisais le ménage, la vaisselle, tu préparais ton petit déjeuner et parfois même ton dîner.
Il s'interrompit.
Pour moi, c'est dur de repenser à cette période. Et encore plus dur d'en parler.
Non, c'est pas ça.
Alors quoi?
Je rechignais encore à lui avouer que j'avais conclu un pacte avec Dieu et que je devais remplir ma part du contrat. En revanche, il y avait une chose que je pouvais lui dire, une chose qu'il comprendrait et, coup de chance, c'était vrai. Oh ah ah, comme tu le sais, ils disent qu'il est important de garder une attitude reconnaissante. Il hocha la tête.
Un alcoolique reconnaissant ne picole pas, voilà ce qu'ils disent.
Et moi, je suis reconnaissant que tu ne boives plus. Même si je ne te le dis pas tous les jours, je le suis. Alors, si on disait que j'essaie de rendre l'appareil, tout simplement? Il ôta sa pipe de sa bouche et passa sa main sur son visage.
D'accord, disons ça. Mais je veux le rencontrer. J'estime que c'est mon devoir.
Tu comprends? Je dis que je comprenais. Peut-être quand il sera un peu remis de son accident?
Entendu. Je t'aime, fiston.
Moi aussi, papa.
Du moment que tu sais que ce n'est pas facile, ce dans quoi tu t'engages, tu en es conscient, hein?
Oui, je le savais. Et je savais aussi que je n'avais pas conscience de l'ampleur de la tâche. Tant mieux, j'aurais pu me décourager. Ça aussi, ils en parlent dans ton programme. Un jour après l'autre.
Exact. Mais les vacances de printemps vont passer vite. Et tu ne dois pas négliger tes études, même si tu penses que tu es utile là-bas. J'insiste.
Ok. Il regarda sa pipe.
Et s'est éteinte, une fois de plus.
Il la posa sur la rambarde et se pencha pour gratter le poil épais dans le cou de Radar. Elle dressa la tête et la laissa retomber.
T'es vraiment une gentille chienne.
Oui.
Tu es tombé amoureux d'elle, hein? Je crois. Elle a un collier, mais pas de médaille. Ce qui veut dire que M. Boditch n'a pas payé la taxe canine. Et je parie qu'elle n'est jamais allée chez le vétérinaire.
Je l'aurais parié également.
Elle n'a pas reçu de vaccin antirabique, entre autres.
Après un silence, il ajouta
« Je me pose une question et je veux que tu y réfléchisses. Très sérieusement. Est-ce qu'on va en être de notre poche à l'arrivée? Les provisions, les médocs, les barres d'appui.
N'oublie pas l'urinal, ajoutai-je.
Alors, à ton avis?
Il m'a dit de noter toutes les dépenses et qu'il me rembourserait.
Ce n'était pas vraiment une réponse. Je le savais et papa aussi, probablement.
Réflexion faite, vous pouvez supprimer le « probablement ».
Même si on ne veut pas se retrouver dans le pétrin à cause de lui, c'est un coût de 200 ou 300 dollars, pas plus, mais l'hôpital. Tu sais combien coûte une semaine, Arcadia? Sans même parler des opérations, évidemment, et du suivi.
Je n'en avais aucune idée. Mais en tant qu'expert en assurance, papa connaissait la réponse.
80 000 dollars, minimum.
C'est pas nous qui allons pouvoir payer cette somme, si?
Non, c'est lui. Je ne sais pas quel genre d'assurance il a, ni même s'il en a une. J'ai interrogé Lindy. Il n'a rien trouvé chez Overland. Medicare, peut-être, mais à part ça, comment savoir?
Il changea de position dans son fauteuil.
Je me suis un peu renseigné à son sujet. J'espère que tu ne m'en veux pas.
Non. Et je n'étais pas étonné, car se renseigner sur les gens, c'était justement son métier. Avais-je envie d'en savoir plus, moi aussi? Évidemment. Alors, qu'as-tu découvert?
Presque rien. J'aurais cru que c'était impossible à notre époque. Mais il n'a pas d'ordinateur, ni même de portable, ce qui élimine d'emblée Facebook et les autres réseaux sociaux. Je devinais que M. Boditch n'aurait eu que mépris pour Facebook, même s'il avait possédé un ordinateur et un smartphone. Facebook était un fouineur.
Tu disais qu'il y a des initiales sur la boîte à outils? AB, c'est bien ça?
Exact.
Ça correspond. La propriété en haut de la colline possède presque un hectare de terrain, c'est pas mal. Elle a été achetée par un certain Adrian Boditch en 1920.
Son grand-père?
Possible, mais compte tenu de son âge, ça pourrait être son père.
Papa reprit sa pipe sur la rambarde, mâchonna le tuyau 2 ou 3 fois et la reposa.
Quel âge a-t-il d'ailleurs? Tu crois qu'il l'ignore vraiment?
Possible.
Quand je le croisais à l'époque, avant qu'il se transforme plus ou moins en ermite, je lui donnais 50 ans. Je le saluais d'un geste de la main et parfois il répondait.
Tu ne lui as jamais parlé?
Il se peut que je lui ai dit bonjour, ou que j'ai fait une remarque sur le temps, si ça en valait la peine, mais il n'était pas du genre bavard. Bref, il avait l'âge d'être allé au Vietnam, mais je n'ai trouvé aucun dossier militaire à son nom.
Donc, il n'a pas fait l'armée?
Il n'a sans doute pas fait l'armée. J'aurais pu en apprendre davantage si je travaillais encore chez Overland, mais ce n'est pas le cas et je n'ai pas voulu demander à Lindy.
Je comprends.
J'ai quand même découvert qu'il avait un peu d'argent, car les taxes foncières sont des documents publics. Et pour le 1 Sycamore Street, en 2012, la somme à payer s'élevait à 22 000 dollars et des poussières.
Il paye cette somme tous les ans?
Ça varie. Le plus important, c'est qu'il paye. Et il habitait déjà là quand ta maman et moi, on a emménagé dans cette rue, je te l'ai peut-être dit. Il payait certainement moins à l'époque, car les taxes foncières ont beaucoup augmenté, comme le reste, mais on parle quand même d'une somme à 6 chiffres en tout. C'est une grande propriété.
Que faisait-il avant de prendre sa retraite?
Aucune idée. Je viens de faire sa connaissance, et il n'était pas au mieux de sa forme quand je l'ai rencontré. On n'a pas eu une conversation à cœur ouvert, comme tu dirais.
Cela n'allait pas tarder, mais je ne le savais pas encore.
Je n'en sais rien non plus. Je n'ai rien trouvé. Au risque de me répéter, je ne pensais pas que ce soit possible à notre époque. J'ai entendu parler de personnes qui disparaissent de la circulation, mais généralement, ça se passe au fin fond de l'Alaska, dans des sectes de gens qui pensent que la fin du monde approche, ou dans le Montana, comme Yuna Bomber.
Yuna qui?
Un terroriste. Ted Kaczynski, de son vrai nom. Tu n'as pas trouvé du matériel servant à fabriquer des bombes dans la maison de Bodich, par hasard?
Papa avait-il haussé les sourcils pour montrer que c'était de l'ironie? Je n'en étais pas certain.
Ce que j'ai vu de plus dangereux, c'est une faux et une hachette rouillée dans cette boîte à outils au deuxième étage.
Et des photos? De son père ou de sa mère, par exemple? Ou de lui, plus jeune?
Non, rien. Juste une photo de radar sur la petite table à côté de son fauteuil dans le salon. Papa tendit la main vers sa pipe, puis se ravisa.
On ignore d'où vient son argent, à supposer qu'il lui en reste, et on ignore ce qu'il faisait dans la vie. Un boulot à domicile, je parie, car il est agoraphobe.
Ça signifie... Je sais ce que ça veut dire.
Selon moi, c'est une tendance qui s'est accentuée avec l'âge. Il s'est replié sur lui-même.
La femme qui habite en face m'a dit que, dans le temps, il promenait radar la nuit. La chienne dressa l'oreille en entendant son nom. J'ai trouvé ça bizarre. La plupart des gens promènent leur chien dans la journée, mais...
Le soir, il y a moins de monde dans les rues.
Ouais. C'est sûr qu'il n'est pas du genre à sympathiser avec ses voisins.
Autre chose, dit papa. Un truc bizarre. Mais lui-même est plutôt bizarre, tu ne trouves pas?
J'esquivais la question et demandais quel était ce truc bizarre.
Il possède une voiture. Je ne sais pas où elle est, mais il en a une. J'ai trouvé l'immatriculation sur Internet. C'est une Studebaker de 1957. Il bénéficie d'une réduction sur la vignette car elle est enregistrée comme véhicule de collection. Il la paye tous les ans, comme la taxe foncière, mais c'est beaucoup moins cher. Une soixantaine de dollars.
S'il y a une voiture, tu devrais pouvoir trouver son permis de conduire. Ça te donnera son âge.
Papa sourit et secoua la tête. Bien vu, mais aucun permis de conduire n'a jamais été délivré à un dénommé Howard Bodich dans l'état de l'Illinois. Et puis, tu n'es pas obligé d'avoir un permis de conduire pour acheter une voiture. D'ailleurs, peut-être qu'elle ne roule plus.
À quoi bon payer la vignette tous les ans pour une voiture qui ne roule pas?
Mieux encore, à quoi bon payer la vignette quand tu n'as pas le permis?
C'est Adrian Bodich. Le père ou le grand-père, il avait peut-être le permis, lui.
Je n'y ai pas pensé. Je vérifierai.
Un silence.
Tu es sûr de vouloir te lancer là-dedans, Chip?
Oui.
Alors, interroge-le sur tout ça. Car autant que je puisse en juger, c'est comme s'il n'existait pas.
Je promis de me renseigner, et cela sembla mettre fin à la discussion. Je faillis évoquer le drôle de bruit que j'avais entendu à l'intérieur du cabanon, derrière la porte fermée par un gros cadenas, alors qu'il était censé être vide, mais je m'abstins. Ce bruit s'était dissous dans mon esprit. Et j'avais d'autres choses en tête.